Dans quelques minutes, nous allons ouvrir les lignes et puis on va se parler du match de ce soir entre les Oilers et le Canadien. Antti Niemi sera devant le filet à 18h30. C'est l'émission d'avant-match avec Martin McGuire et Danny Dubé. Alors, ils vont vous donner un petit peu plus d'informations, mais comme je vous ai mentionné, Antti Niemi et non Carey Price devant le filet ce soir pour le Canadien. Avant d'ouvrir les circuits, puis avant de prendre vos prédictions, vos vœux de Noël, vous souhaitez joyeux Noël, puis tout ça, je vais juste parler de Philippe Aumont. Et Philippe Aumont, il y a 10 ans, était repêché par les Mariners de Seattle, 11e au total, première ronde, avait eu un boni en haut de $1 million, puis tout ça, puis c'était parti pour lui. Il s'est échangé aux Phillies, a joué dans les ligues majeures avec les Phillies et dans les dernières années, il a été allé lancer avec les Champions d'Ottawa et avait pris un peu de recul, hein, avait pris un peu de temps pour lui-même. Ça va mal terminer avec les Phillies et là, il s'est fini avec les White Sox, avec les Blue Jays aussi un petit séjour là. Et là, mais on apprend, il était de retour à l'entraînement et il s'est entendu avec les Tigers de Détroit. Un contrat des Ligues mineures. Je voulais en parler avec Alex Agostino. Salut Alex!
Salut Derek!
Hey, je voulais aussi te souhaiter joyeux Noël. Ça aussi, je voulais faire. Là.
C'est gentil à toi aussi, puis tous les auditeurs.
Alors, écoute, cette nouvelle-là, cette paix avec le baseball que Philippe a fait, parce que c'est important de dire ça. Il est parti du baseball parce qu'il aimait plus ça, initialement. Ça allait pas bien. Il se sentait pas bien. Il a pris du recul. Il est allé jouer pour les bonnes raisons avec l'équipe d'Ottawa l'été dernier. Et là, ben, il s'est entraîné avec Éric Gagné. Il a lancé pour certaines équipes. Je sais pas si les Phillies l'ont vu lancer, mais dis-moi exactement comment c'est arrivé, là, Philippe, avec les Tigers de Détroit.
Les Phillies, on l'a vu lancer beaucoup. Tu sais qu'on a échangé Cliff Lee pour Philippe Aumont lorsqu'il était dans les mineurs avec les Mariners et il a fait ses débuts. Puis il a fait des débuts, faut pas oublier, très prometteurs. Lorsque Charlie Manuel était le gérant des Phillies, il avait eu 7-8 très, très bonnes sorties. Mais comme le lot des gérants vétérans comme Charlie Manuel, il a été utilisé à outrance à son arrivée. Et à un certain moment donné, il a flanché un petit peu, mais c'était normal pour une recrue. Puis malheureusement, par la suite, il n'a pas pu retrouver le succès qu'il avait eu dans les mineurs avec nous et au niveau du baseball majeur. Après ça, comme tu as dit, il a roulé sa bosse à Toronto un petit peu finir l'année. Après ça, les White Sox, je connais le dépisteur professionnel John Tumminia, un dépisteur vétéran qui couvrait le Canada dans le temps qu'Éric Gagné avait joué. Pourquoi je dis ça? C'est John Tumminia qui avait qui avait repêché Éric Gagné de l'Académie de baseball. Ils l'ont pas signé, les White Sox, parce qu'Éric avait continué sa progression au collège américain. Alors, on dirait que c'est la boucle, hein? C'est Éric Gagné, repêché par John Tumminia, qui entraîne et qui prépare le retour de Philippe Aumont. Parce que Philippe a signé avec les White Sox, a eu un très bon camp d'entraînement. Mais je pense que tu as déjà passé par là. Derek, quand tu es au camp d'entraînement et tu n'as pas un contrat garanti des majeurs, c'est mieux de ne pas donner aucun point et être parfait.
Ouais, oui.
Des fois, même quand tu l'es, tu es rétrogradé au 3. Pourquoi? Parce que le vétéran a son contrat. Toi, tu retournes. Ben, va continuer à Charlotte, en Caroline du Nord, ou n'importe où, là, que ton 3 est. Puis là, Philippe, je pense qu'il y a eu un down à ce moment-là. Puis je t'ai parlé avec mon chum, M. Tumminia, qui il aurait dû commencer avec les White Sox. Puis qui sait, ça aurait peut-être été différent. Mais malheureusement, dans les mineurs, ça n'a pas été aussi bien pour lui. Puis Philippe a décidé à ce moment-là de prendre un break, ce que j'appelle, moi, mental. Pas physique. Il a toujours eu le physique de l'emploi. Et son repos, je pense, a été bénéfique au niveau mental. Au niveau de son corps, il n'y a jamais eu de blessure majeure, il n'y a jamais eu de problème. Son plafond est encore très élevé parce que c'est un gars qui lance encore des balles à 95 000 à l'heure, puis sa balle a toujours bougé. Là, il a commencé à aimer ça, il a travaillé dans le sport-études de Gatineau, il a lancé avec Ottawa. Puis ce que j'ai aimé avec Ottawa, Derek, là, c'est qu'il a été partant. Il ne lançait pas une manche à gauche et à droite. Il a fait des manches, pas comme s'il a lancé 20 manches, puis là, il n'est pas prêt à compétitionner. Il en a lancé plusieurs manches, si je ne me trompe pas, dans les dernières années, en haut de 100. Et là, ça pourrait le ramener. Là, un mois et demi avec Éric Gagné, qui a eu toutes les hauts et les bas du baseball majeur, Cy Young, des records incroyables avec les Dodgers. Mais je pense qu'Éric, où il peut l'aider, c'est sur le plaisir de jouer, le comment se préparer, le mental. Puis, es-tu prêt à vraiment sacrifier des choses que peut-être, à la fin, t'aimais plus ça, le voyagement, être dans les autobus, dans les avions, puis de ville en ville. Là, il est encore jeune pour voir que, garde, j'ai une opportunité, pourquoi pas, je m'entraîne, mon bras est encore en santé. Les équipes qui l'ont vu, une équipe comme les Tigers, on sait, Derek, qu'ils ne s'en vont pas nécessairement nulle part pour l'instant, et ils cherchent ce que j'appelle, moi, des undervalued players, des joueurs là qu'on peut peut-être signer pour rien, un contrat des ligues mineures, puis on peut aller chercher quelque chose de très bien dans l'année, puis les Tigers vont avoir besoin de bras au cours de la saison parce qu'ils sont dans un mode de rebâtissage. Il a assez bien lancé dans un camp d'entraînement, ça ne coûte rien à l'équipe pour l'amener au camp, et là, maintenant, c'est à Philippe de prouver sa valeur au nouveau dirigeant. C'est une équipe qui va avoir un nouveau gérant, c'est une équipe qui s'en va vraiment là dans... Comment je pourrais dire ça? C'est pas une équipe qui vise le championnat dès cette année. Ils rebâtissent. Philippe peut peut-être faire partie de ça et se refaire une carrière. Tu vas au camp d'entraînement, tu lances bien encore. Peut-être que tu es obligé d'aller dans le 3 pour débuter l'année, mais si son make-up mental est prêt à prendre ces sacrifices-là, je pense qu'il peut réussir. La balle est dans son camp, puis moi, je suis content qu'il y ait une autre opportunité.
Bien, ça sera à suivre, évidemment, parce que oui, on le sait, les dernières années, ça a été difficile pour lui, et moi, je suis juste heureux. S'il est à une bonne place, et mentalement, il y croit, bien, écoute, il est encore jeune, comme tu mentionnes. Il lance encore 95-96 avec du mouvement, donc, regarde, c'est possible, c'est possible. Hey, écoute, on n'a pas eu la chance de discuter de la transaction qui a envoyé Giancarlo Stanton aux Yankees et un peu ce que le nouveau ownership, ce que les nouveaux propriétaires des Marlins sont en train de faire là. Derek Jeter, évidemment, à la tête. Les partisans des Marlins, là, ils sont pas plus heureux qu'ils étaient avec Samson là à ce moment.
Non, c'est sûr qu'ils sont pas plus heureux. J'ai lu tellement à gauche et à droite, que ce soit Dee Gordon, Stanton, tous les échanges de Marcel Ozuna, c'est le dernier. Et là, tu as des jeunes joueurs comme Christian Yelich et Real Muto qui sont encore là, qui disent nous, on veut gagner là. Puis là, la seule affaire que je peux dire du groupe de Jeter et Sherman, c'est pas eux qui ont donné ces contrats-là à ces joueurs-là et ils ont aucune obligation morale. De garder ces joueurs-là, puis on doit faire ce qu'ils veulent au niveau de bâtir. Sauf que c'est encore en Floride. Les partisans qui, même si l'équipe n'a pas joué 500 l'année passée, ont quand même vu une lueur d'espoir. Hey, on a un des meilleurs frappeurs de puissance du baseball majeur en Stanton. On a des jeunes, comme je te mentionnais tantôt, de Real Muto et Yelich. On a Ozuna. On a Dee Gordon. On a un ou deux lanceurs peut-être de compétitionner avec les Nationals.
Oui.
Et là, oh wow, c'est Jeter qui s'en vient, une légende du baseball. Il s'attendait pas à ça parce que dans toutes ces négociations-là, il n'y a pas une fois que Jeter qui disait vraiment hey, au début, nous autres, on s'en vient là pour on détruit l'équipe. Une fois qu'ils l'ont eu, ils ont mentionné qu'il va falloir qu'ils prennent des décisions difficiles, ne seront pas populaires au début, mais la raison qu'ils font ça, c'est pour avoir du succès à long terme. Je pense que les partisans, c'est difficile parce que c'est pas une organisation qui a été choyée au niveau des propriétaires, malgré qu'ils ont eu deux séries mondiales. Mais on dirait que c'est des séries mondiales qui ont été gagnées et arrachées l'année suivante parce que les deux fois, les équipes ont été démantibulées aussitôt que la franchise a gagné leur série mondiale. Et là, de ce côté-ci, les partisans regardent ça et t'as Dan Le Batard, qui est un journaliste influent là, dans le coin de Miami, qui a eu un...
Qui aime beaucoup les Marlins en passant.
C'est un Cubain. Il y a eu une entrevue musclée avec
Manfred. Oui.
Puis tu sais, Manfred, il dit, moi, c'est pas moi qui décide qu'est-ce que les équipes font, mais c'est sûr que le 1,2 milliard que Jeter et son associé Sherman doivent trouver, ils ont pas l'argent aujourd'hui pour commencer à dire, on va avoir une masse salariale de 150 millions. C'est malheureux pour les partisans. Ils vont probablement avoir 2-3 années très, très maigres au niveau des assistantes, au niveau de comment ça fonctionne. Et là, Jeter a déjà eu un meeting avec des détenteurs de billets de saison pour essayer d'expliquer ce qu'ils font.
Oui.
Mais ça va être dur, je pense, de gagner le monde, mais au moins, il faut lui donner la chance à Jeter. Je pense pas que, comment je pourrais dire ça, je pense pas qu'il s'est embarqué là-dedans pour perdre, que ce soit de l'argent ou sur le terrain, mais pour être bon à long terme, pour que l'équipe soit viable. C'est ça qui est important.
Mais c'est une vente, c'est une vente de feu. Et juste pour que nos auditeurs qui soient au courant de ce que tu parles un peu, il y a eu une entrevue de Dan Le Batard, c'est un animateur sur ESPN Radio. Il y a eu le commissaire Rob Manfred en entrevue. Et c'est parce que lui, il veut défendre. Lui, il essaie de comprendre là, pourquoi ils sont en train de tout démolir, cette équipe-là, puis tout vendre. Ouais. Et il voulait que le commissaire dise, tu sais, nous autres, on... Il voulait que le commissaire déplore cette situation-là ou au moins ait un commentaire qui pourrait possiblement rassurer les partisans dans le sud de la Floride. Et... ce que Dan Le Batard avait, c'est qu'il avait le document, parce que Derek Jeter et son groupe d'investisseurs, tu le sais, recherchaient d'autres investisseurs. Et il y a plusieurs mois, dans leur offre, Derek Jeter, il connaît Alex Agostino, puis il sait qu'Alex Agostino, il y a plusieurs dizaines de millions qui traînent dans son garde-robe. Et puis il dit, Alex, ça te tente-tu d'investir avec moi dans les Marlins? Voici mon plan. Et dans le plan, ça dit, notre plan dans les premières années, c'est que la masse salariale, c'est de passer à 85 ou 90 millions. Alors, ce document-là, il y a plusieurs personnes qui ont mis la main sur ce document-là. Et ce document-là, quand la vente a eu lieu des Marlins, les autres propriétaires ont vu ce document-là parce qu'ils ont dû autoriser cette vente-là. Alors, le commissaire, lorsqu'il a dit qu'il n'était pas au courant, c'est là que le batteur a dit, non, mais là, tu commences en me comptant de la merde, là. Tu me dis, t'es un menteur. Là, il dit, non, attends une minute, là, j'accepterai pas que tu me traites de menteur. Mais il dit, vous étiez au courant que le nouveau groupe à Miami était pour avoir une vente de feu parce qu'il était pour avoir diminuer leur masse salariale à 85 ou à 90 millions. Et là, le commissaire a dû se défendre en disant « Oui, mais j'étais pas au courant spécifiquement des joueurs qui étaient pour échanger puis tout ça, c'est mais ça. C'est ben, ça l'histoire. »
C'est bien simple qu'il n'allait pas échanger le 25e joueur qui gagne 500 000 ou il n'allait pas couper ce joueur-là. C'est vraiment les joueurs comme Gordon, comme Stanton et comme Ozuna qui gagnaient des gros montants et qui étaient pas mal le noyau, le cœur de cette équipe avec les jeunes, parce que si on regardait l'alignement à la fin de la saison l'année passée, là, hey, donne-moi un ou deux lanceurs par temps, j'ai les joueurs de position pour marquer des points, ça peut être intéressant, mais le commissaire n'a pas eu de l'air, ça n'a pas été un de ses meilleurs moments, parce qu'il était très bon depuis qu'il a pris la place à C-League. En général, il patine bien, il est très alerte. Là, dans cette situation-là, je pense que Le Batard l'a mis dans un coin, puis il savait, lui, il avait l'information, puis la façon que Manfred a tenté de se défendre, c'est en disant, moi, je sais pas, les opérations journalières, c'est pas moi qui décide qui va échanger.
Ouais, c'est ça.
C'est sûr qu'il était au courant que, regarde, nous autres, on peut pas arriver là avec une masse de 150 millions, on peut pas. Puis,
mais ça nous fait penser à quelque chose, par exemple. Ça me fait penser, évidemment, il y a eu le gros prix, là, le groupe à Samson et Loria, mais ça me fait penser que le baseball majeur avait probablement hâte des voix sorties aussi du groupe de propriétaires.
Ça, c'est sûr et certain que les 29 autres propriétaires sont très heureux d'accueillir Jeter et Sherman et que le commissaire est content de voir le départ. Je pense que tout le monde, spécialement ici à Montréal et au Québec, là, sauf qu'ils sont partis comme des bandits quand tu y penses, hein, ils ont eu les expos pour presque rien, ils ont dilué le produit, ils ont été capables d'aller chercher dans l'air Bud Selig, les Marlins pour une centaine de millions et là, ils ont pas...
Ah, ils ont passé à la banque. Ah, non, c'est incroyable.
Hey, écoute. Je pense que c'est à long terme, ça risque d'être bon, mais c'est une couple d'années très difficile qui attendent les partisans des Marlins.
Alex, merci encore pour ton temps. Ça sera à suivre, évidemment. C'est un dossier qui n'est pas le fun, mais ça sera à suivre. Et le baseball majeur a appelé ESPN et les hauts dirigeants de ESPN et ABC parce qu'ils n'ont pas aimé cet entretien-là.
C'est sûr, c'est certain, mais moi, je l'ai aimé. Puis des fois, c'est bon, tu vois qu'il y a quand même de la passion, même à Miami pour leur équipe, malgré le fait qu'ils n'ont pas été gâtés.
Alex, joyeux Noël, mon champ.
À toi aussi, pour ta famille. Salut, Derek.
Bye. Prenez place sur les circuits. 514-790-9850 dans la grande région de Montréal. 1-866-790-9850. C'est le numéro partout au Québec. Le dièse 985, si vous êtes des abonnés de TELUS. Je pense que ça marche encore, ça. Je sais pas. Personne ne me dit rien, moi, ici. On fait une pause. On revient avec vos vœux de joyeux Noël, avec vos prédictions pour le match de ce soir. Premier but, première pénalité et première étoile au retour. Et le Père Noël est en ligne déjà du Pôle Nord. Oui, monsieur.